Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Devons-nous croire à la création de Dieu ou à l'évolution? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui prouvera que l'une de ces théories est un mythe. Aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a plusieurs questions à poser au livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Allons-y, sans plus tarder. Est-ce uniquement de nos jours qu'on peut voir des gens s'enrichir en vendant des produits qui n'ont aucune valeur? Puisque nous vivons à une époque où il est difficile d'entendre la vérité, qui pouvons-nous croire? Pourquoi la société occidentale s'est-elle détournée de Dieu? Devons-nous croire à la création de Dieu ou à l'évolution? Qu'est-ce qu'une église froide? Qu'est-ce qu'une église bouillante? Qu'est-ce qu'une église tiède? Est-ce qu'on peut voir ces trois types d'églises aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Qu'est-ce que Dieu va faire avec les tièdes? Qu'est-ce que le Seigneur pense des gens qui vivent toute leur vie comme si Dieu n'existait pas? Demeurez à l'écoute, le Seigneur est sur le point d'enrichir nos vies par les réponses de sa parole et par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu enrichis réellement nos vies par ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes particulièrement dans ce livre, dans l'Apocalypse. Quel bel enseignement tu nous donnes, Seigneur. Il y a beaucoup plus que des catastrophes, mais il y a plein de nourriture spirituelle pour nos âmes, pour nous fortifier dans les temps où on vit. Alors merci, Seigneur. Continue à toucher nos cœurs, à nous transformer aujourd'hui par ta merveilleuse parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que l'Église de Philadelphie avait gardé fidèlement la parole de Dieu. De plus, elle l'avait répandue dans toute la région. En conséquence, le Seigneur lui ouvrait la porte à sa joie et aux opportunités d'évangélisation. Dans le panorama d'histoire de l'Église, cette assemblée représente la véritable Église de Dieu. Elle se distingue ainsi de l'Église de la Odyssée que nous verrons aujourd'hui. Cette dernière n'a que l'apparence de la piété. C'est pourquoi le Seigneur promet à l'Église de Philadelphie de la garder à l'heure de la grande tribulation. La lettre de Jésus-Christ à l'Église de Laodicée. La lettre de Jésus-Christ, destinée à l'Église de Laodicée, est la dernière de ces sept lettres adressées aux Églises à l'époque de l'apôtre Jean. Dans l'histoire de l'Église, elle représente l'Église du compromis. D'ailleurs, Sir William Ramsay a appelé Laodicée la cité du compromis. Cette ville a été fondée par Antiochos II, qui a régné entre 261 et 246 avant Jésus-Christ. Il appartient à la dynastie Séleucide, qui a dominé sur la partie asiatique de l'Empire grec d'Alexandre le Grand à cette époque. Le fondateur de cette dynastie, Séleucos Ier, était un des généraux d'Alexandre. Il avait pris la Syrie. Un autre lieutenant d'Alexandre, Lysimaque, s'est emparé de l'Asie mineure, mais il a été tué par Séleucos. Ce dernier a donc annexé une partie de son territoire, dont Laodicée faisait partie. Cette ville est située à une soixantaine de kilomètres d'Éphèse, à l'intérieur des terres. Elle se trouvait à l'entrée de la porte de la Phrygie. Les grandes caravanes de chameaux en provenance de l'Orient passaient par cette porte et par la ville de Laodicée pour se diriger ensuite vers Éphèse, Milet ou Smyrne, qui est maintenant connu sous le nom d'Esmyre. À l'époque de l'apôtre Jean, Laodicée était une ville prospère, située dans une grande vallée. Aujourd'hui, la ville est en ruine et couverte d'herbes sauvages. Le nom Laodicée vient du grec. Il signifie « justice du peuple ». Mais le nom vient de Laodice, l'épouse d'Antiochos. Plusieurs villes portent ce même nom, mais notre Laodicée est la plus connue de toutes. Entre Laodicée et les monts phrygiens, on trouve dans la vallée un temple anatolien dédié au dieu phrygien Menkaure, une idole primitive. Ce temple était le centre administratif, social, commercial et religieux de la région. On y trouvait un grand marché et les marchands affluaient de partout pour y faire du commerce. À cause de ce commerce, Laodicée était une ville très riche et friande de culture grecque. On y étudiait la science et la littérature. Elle contenait aussi une école de médecine, d'où viendrait un remède qu'on appelait alors dans l'Empire romain la poudre phrygienne. Il s'agissait d'un baume pour les oreilles ou les yeux. Une des principales industries de Laodicée était le vêtement. De plus, Laodicée était un centre industriel avec de nombreuses opérations bancaires. Cicéron y avait sa cour. On dit même qu'il avait apporté des notes qu'il pouvait échanger contre de l'argent dans cette ville. Ce serait donc un précurseur du papier-monnaie. Le principal objet d'adoration de la ville était Zeus, connu par les Romains sous le nom de Jupiter. La ville a éventuellement été abandonnée à cause des tremblements de terre. Les ruines impressionnantes de deux théâtres romains, d'un grand stade et de trois églises chrétiennes anciennes peuvent encore y être vues. En se tenant sur les ruines de Laodicée, on peut voir au loin les collines où étaient érigées les villes de Colosse et de Hiérapolis. C'est dans cette dernière ville qu'on trouve les ruines les plus intéressantes. Les collines environnantes ont une couleur assez inhabituelle. Les gens prélevaient l'argile de ces collines. Ils y ajoutaient une espèce de nard et en faisaient un baume pour les oreilles et les yeux. Ce baume était ensuite commercialisé et envoyé dans tout l'Empire romain. Aujourd'hui, une analyse chimique de ce baume révèle que cette argile ne possède aucune vertu thérapeutique. Mais quelqu'un s'est sûrement rempli les poches avec ce faux remède. Nous aimons penser que nous sommes plus civilisés aujourd'hui. Pourtant, de temps à autre, des médicaments sont enlevés du marché parce qu'ils produisent des effets secondaires nocifs. Mais, à ma connaissance, aucun médicament n'a été retiré du marché pharmaceutique parce qu'il ne produisait aucun effet positif. D'autre part, de nombreuses études médicales ont révélé que certains faux remèdes, appelés placebo, fonctionnent aussi bien que certains médicaments coûteux. Beaucoup de remèdes sur le marché d'aujourd'hui ne font aucun bien réel. Mais les gens les achètent à cause de la publicité. Peu de gens osent s'attaquer aux industries pharmaceutiques. Mais le Seigneur Jésus le faisait. Il fait savoir aux citoyens de Laodicée qu'ils devraient se procurer un véritable remède pour les yeux, car ils étaient aveugles. Le témoin fidèle et véritable. Chers amis, débutons la lecture d'aujourd'hui en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Nous trouvons ici le seul endroit dans la Bible où « Amen » est un nom propre, et c'est le nom de Jésus-Christ. La formulation du prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 16, s'en rapproche quelque peu. « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » L'expression « le Dieu de vérité » devrait être traduite par le Dieu de l'Amen. Également, toujours le prophète Ésaïe, au verset 9 du chapitre 7, nous lisons « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Le verbe traduit ici par « croire » et « Amen » dans le texte original. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est l'Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui accomplit et qui accomplira toutes les promesses de Dieu. » Pourquoi se révèle-t-il de cette manière à l'église de Laodicée? Parce que ses membres ont rejeté la divinité de Jésus-Christ. Ce mot « Amen » est le seul extrait qu'il retient de la vision donnée à l'apôtre Jean au chapitre 1er de l'Apocalypse. Le témoin fidèle est véritable. Jésus nous fait comprendre qu'il est le seul à pouvoir tout nous révéler et à tout nous dire. Nous vivons en un temps où il est très difficile d'entendre toute la vérité. Des notions absolues comme vérité et mensonge, bien et mal, semblent peu évoluer aux yeux de certains. Nous n'entendons certainement pas la vérité lorsque nous lisons ou écoutons les nouvelles ou lorsque les politiciens nous font leurs beaux discours. Qui pouvons-nous croire? La réponse nous est donnée dans ce verset. Le témoin fidèle est véritable, et nous pouvons entendre sa voix, même dans les temps d'apostasie. Pourquoi la société occidentale s'est-elle détournée de Dieu? Parce que l'apostasie s'est progressivement introduite dans l'Église au cours des derniers siècles. Quand on n'interdisait pas formellement aux membres de l'Église de lire la Bible, on cherchait à remettre son autorité en question. Les théologiens libéraux s'en sont même fait une spécialité. Le principe de la création de Dieu précise ce texte. Jésus-Christ est celui par qui tout a été créé et sans qui rien n'a été créé, comme nous le voyons au début de l'Évangile de Jean. La vérité est que Dieu a créé le monde, mais aujourd'hui, le mythe de l'évolution est présenté comme une science dans nos écoles. Au Moyen Âge, les scientifiques croyaient que la vie pouvait naître de ce qui n'est pas vivant. On laissait traîner un bout de viande pourrie pendant quelques jours et on croyait que les vers et autres parasites avaient été générés par la viande. Ce n'est que plus tard, sous des conditions contrôlées, qu'on s'est aperçu que ce qui n'est pas vivant ne pouvait pas engendrer la vie. La science est retombée dans un nouveau Moyen Âge quand elle s'est laissée séduite par les grands prêtres de l'évolutionnisme. Ces derniers prétendent que la loi scientifique de la biogenèse aurait été mystérieusement suspendue pour permettre l'apparition spontanée de la vie. Aujourd'hui, certains scientifiques tentent prudemment de s'écarter de tels mensonges en postulant entre autres que la vie viendrait de météorites extraterrestres. Cela n'explique rien, bien sûr, mais au moins cette hypothèse n'entre pas en flagrante contradiction avec les lois fondamentales de la véritable science. En fait, il existe deux manières d'expliquer l'origine non seulement de la vie, mais de l'univers. La première est la spéculation, parce que la science ne possède aucune donnée directe sur l'origine de l'univers. Et lorsque vous entendez de vrais scientifiques, leur langage prudent contraste avec le délire évolutionniste qui n'accepte aucune autre vérité que la sienne. La deuxième est la révélation. L'humilité consiste alors à admettre que la vérité de nos origines nous est inaccessible, mais que Dieu, dans sa bonté, nous l'a révélée dans sa parole. À vous de déterminer si vous désirez vous appuyer sur la spéculation des hommes ou la révélation de Dieu. Pour ma part, je préfère me tenir sur un terrain solide, car la Bible est le manuel d'instruction du fabricant, de celui qui a tout créé. Il est le seul à vraiment savoir ce qui s'est réellement produit au moment de la création. Et le Seigneur Jésus est le principe de la création de Dieu. En d'autres mots, Jésus est le créateur du monde physique, ni froid, ni bouillant. Retournons à notre texte de l'Apocalypse, cette fois lisons chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans la plupart des cas, la formule « Je connais tes œuvres » précède des félicitations ou des encouragements. Jusqu'ici, seule l'Église de Sardes faisait exception à cette règle. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne peut ni féliciter ni encourager l'Église de la Laodicée. Car il ne trouve rien de bon en elle. Même ses œuvres ne sont pas bonnes. Elles sont mauvaises. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Pour bien comprendre le sens de cette phrase, nous devons nous référer à l'arrière-plan de cette ville. La Laodicée connaissait des problèmes d'approvisionnement d'eau. Elle devait faire venir son eau de l'extérieur. Deux options se présentent. La première est de faire venir l'eau des monts phrygiens. Certains d'entre eux sont très élevés. Et même, au mois de juin, on peut voir de loin la neige sur certains sommets. Les citoyens avaient donc construit un aqueduc pour faire descendre cette eau des montagnes dans la vallée. Bien sûr, lorsqu'elle quittait la montagne, cette eau était glacée. Mais, à mesure qu'elle descendait vers la ville, la chaleur du soleil produisait son effet. Arrivé à la Odyssée, l'eau était tiède. Et lorsque vous avez passé la journée sous un soleil brûlant, une eau tiède n'est pas très bonne à boire. Plus bas, dans la vallée, on trouve la deuxième source d'approvisionnement en eau. Mais l'eau de la rivière Méandre, maintenant appelée Mandarès, est chaude. Si chaude qu'elle produit de la vapeur. En fait, une grande partie de cette eau est produite sous forme de vapeur. Or, quand les citoyens de la Odyssée prenaient cette eau pour l'amener à la ville, quand elle arrivait, elle était devenue aussi tiède que l'eau en provenance des montagnes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus leur dit, « Vous n'êtes ni bouillant, ni froid. » Et les habitants de la ville savaient très bien à quoi ils faisaient référence. Ils buvaient de l'eau tiède depuis des années. L'eau qui descendait des montagnes était très froide et l'eau qui montait de la rivière était très chaude. Mais quand l'eau arrivait à la ville, elle était tiède et on avait envie de la recracher. Nous aimons mettre de la glace dans nos boissons gazeuses et nous apprécions un bon café ou thé chaud. Mais que peut-on faire avec de l'eau tiède? Le Seigneur Jésus disait de cette église qu'elle n'était ni chaude ni froide. En conséquence, il la vomirait de sa bouche, comme nous le verrons plus loin. Une église froide est une assemblée qui a complètement renié les principales doctrines de la foi. Elle s'adonne à un formalisme fondé sur des rituels, plus par tradition que par conviction. De plus, comme nous l'avons déjà vu, elle s'oppose à l'autorité de la parole de Dieu et de l'évangile de Jésus-Christ. Une église bouillante est une assemblée animée d'une ferveur spirituelle authentique. On reconnaît la foi passionnée des chrétiens de Philadelphie et le premier amour des chrétiens d'Éphèse, même si, pour cette dernière, l'enthousiasme original s'était quelque peu refroidi au fil des ans. Dans une église bouillante, l'Esprit de Dieu conduit les croyants à une relation personnelle très chaleureuse avec leur Seigneur Jésus-Christ. Mais l'église de la Odyssée, elle n'était ni chaude ni froide, elle était tiède tout bonnement. Entre l'attitude d'une église morte et celle d'une église qui brûle pour Dieu, nous trouvons quelque part entre les deux une église tiède. Un message pour aujourd'hui. Je crois que ce genre de description convient à plusieurs églises aujourd'hui. La plupart des grandes dénominations se sont éloignées progressivement des vérités fondamentales de la foi. La plupart des églises, toutes dénominations confondues, tentent de maintenir le cap entre ces deux bouées. Elles ne veulent pas se prononcer trop en faveur de la parole de Dieu et des doctrines fondamentales de la foi, car ce n'est pas la mode de nos jours. En même temps, elles ne veulent pas être connues comme les églises libérales, car la plupart de ces églises se sont vidées. Pourquoi aller à l'église si on y entend seulement des remises en question de la parole de Dieu? Beaucoup de membres qui ont quitté ces églises ont fait preuve de plus de discernement que leurs dirigeants. Le plus étrange, c'est qu'ils adopteront des positions extrêmes dans les deux camps. Ils adopteront une position fondamentaliste, extrémiste, sur certains points, et une position libérale, extrémiste, sur d'autres points. Et bien sûr, cela donne une théologie assez incohérente. Jésus leur dit qu'il les vomira de sa bouche. Cette position, où on essaie de tout concilier, paraît très hypocrite. Et souvent, ces gens se mentent à eux-mêmes. On se souvient que c'était là le problème de l'église de Sardes, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 1. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Ou encore, 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » À ses débuts, le protestantisme avait adopté toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne. Lorsque nous lisons les écrits de Jean Calvin, nous sommes étonnés par la mesure de ses propos. Et même s'il tenait aux grandes doctrines de la foi, il était également un homme doué d'un grand sens pratique. Lorsqu'il a dû quitter Paris, chassé par les persécutions, il s'est réfugié à Genève. Il a grandement participé à l'essor de cette ville et il a contribué à faire de la Suisse un pays prospère et paisible malgré ses trois cultures différentes, le français, l'italien et l'allemand. Car lorsqu'on tient ferme à la vérité de l'Évangile, les questions humaines d'ordre social et politique se résolvent aisément. La Suisse est un exemple parmi d'autres. Mais aujourd'hui, les églises ont l'apparence de la piété, mais elles ont renié ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? Une confiance absolue dans la souveraineté de Dieu. L'église de Philadelphie tirait sa force de son manque de puissance, car elle s'appuyait sur Dieu. Et, comme nous le verrons bientôt, un des reproches adressés à l'église de Laodicée concerne son orgueil et son indépendance devant Dieu. Elle n'est ni chaude, ni froide, mais tiède. Plusieurs églises se trouvent dans cette situation aujourd'hui, peu importe la dénomination. Il est épouvantable et effrayant de constater la répulsion que ces églises inspirent à notre Seigneur. « Je te vomirai de ma bouche. » Cela ne ressemble pas du tout à une église qu'il s'apprête à appeler à lui au moment de l'enlèvement. Cela ne ressemble pas non plus à une église à laquelle il adresse les paroles suivantes, que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Rappelons-nous qu'il parle à des chrétiens, membres d'une église, dans un cas comme dans l'autre. Aux uns, il dit, « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et aux autres, il dit, « Je te vomirai de ma bouche. » Pourquoi est-il si dur? Parce qu'ils sont tièdes. Je crois que si notre Seigneur parlait aux églises aujourd'hui, plusieurs recevraient les mêmes paroles. « Vous me rendez malade. Vous êtes des chrétiens du dimanche. Vous dites mon nom du bout des lèvres, mais votre cœur ne m'appartient pas. Vous dites que vous m'aimez, mais ce n'est pas vrai. Car si vous m'aimiez, vous obéiriez à mes commandements. Et s'il emploie un langage aussi dur envers eux, comment pensez-vous qu'ils considèrent ceux qui vivent toute leur vie comme s'ils n'existaient même pas? Un nombre effarant de gens pensent que Dieu finira par accepter tout le monde dans son ciel. Mais c'est bien mal connaître la Bible et c'est bien mal connaître Dieu. Ce message doit sonder nos cœurs en ce moment. Car présentement, nous vivons au temps de l'Église de Philadelphie. Mais nous vivons à la fois au temps de l'Église de Laodicée. Les deux existent présentement côte à côte, mais elles s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Les positions deviennent de plus en plus tranchées. Et, encore une fois, il ne s'agit pas d'une dénomination d'église, catholique romaine, protestante ou orthodoxe. Il s'agit simplement de reconnaître ou non l'autorité de la parole de Dieu et celle du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il s'agit de reconnaître, d'aimer, de suivre et d'obéir à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Laissez-moi vous poser cette question, chers amis. Qu'en est-il de votre vie? Jésus-Christ est-il le Seigneur, le Sauveur, le Maître, celui qui vous dirige dans vos pas quotidiens? Jour après jour, vous vous référez à la parole de Dieu, à l'enseignement du Seigneur Jésus? Vous pouvez faire ce choix maintenant. À vous de décider, soit de prendre la direction du Seigneur ou de prendre votre propre direction. Mais il n'y en a qu'une qui mène, en la présence de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse, chapitre 3, les versets 17 à 22. À vous tous, je vous souhaite une agréable lecture.
Merci beaucoup, Régent. Quelle richesse on a reçue aujourd'hui venant de la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi, mes amis? Je pourrais apporter une application à plusieurs des sujets que Régent nous a partagés au cours de l'émission, tellement c'était bon, mais le temps me manquerait. Et aussi, je pourrais vous dire que j'ai particulièrement affectionné ce qu'il a dit au sujet de l'Église de Philadelphie. Vous en rappelez-vous? Je vais le répéter. Cette Église tirait sa force de son manque de puissance, car elle s'appuyait sur Dieu, contrairement à l'Église de Laodicée, à qui le Seigneur adressait des reproches concernant son orgueil et son indépendance de Dieu. Mes amis, je dois vous avouer que je suis heureuse de ne pas me sentir forte, de ne pas me sentir championne ou experte dans les choses que le Seigneur me demande d'accomplir. Je vois parfois des musiciens, des chanteurs, surtout parmi les plus jeunes, qui n'ont pas encore vraiment expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Soit qu'ils aient trop confiance en leurs talents, ou qu'ils aient une mauvaise estime de soi qui les empêche de s'épanouir dans le ministère auquel Dieu les appelle. Alors quand on se prépare à servir Dieu dans la louange, par exemple, avant les répétitions, on a toujours un temps significatif dans la prière. Et j'ai beau avoir plusieurs années d'expérience, ce qui ne me rajeunit pas en passant, je tiens à exprimer à Dieu mon incapacité d'accomplir cette œuvre sans sa toute-puissance. Et c'est ma prière sincère. Mais en même temps, j'ai toujours l'espoir que ces jeunes gens, pleins de talent, voient que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Mes amis, avez-vous remarqué ce que le Seigneur a dit à Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au 12e chapitre, verset 9a? Il a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On a beau avoir des dons, mais le Seigneur ne dit pas que sa puissance s'accomplit dans les dons, mais dans la faiblesse. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui mettent leur confiance dans leurs dons peuvent exécuter à perfection un chant avec leur voix ou avec leur instrument, mais il manque ce cœur d'adorateur qui fait toute la différence, qui touche le cœur de Dieu et même le cœur des personnes qui l'entendent. Alors je pense qu'on peut tous dire ce que Paul a ajouté au verset 9b, « Peu importe le ministère que Dieu nous confie, il dit ceci. » Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et à la fin du verset 10, il ajoute ceci, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors mes frères, mes sœurs, on n'a pas à avoir une mauvaise estime de soi, bien sûr, mais on a quand même à placer toute notre confiance en Dieu, qui prend plaisir à nous remplir de son Saint-Esprit pour le servir avec puissance, avec amour et avec joie. On a à se réjouir. Même il dit, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. On peut même se glorifier de nos faiblesses. Mais on peut rendre gloire à Dieu parce que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Que Dieu soit glorifié en chacun de nous, mes frères, mes sœurs, et qu'il nous donne d'avoir de plus en plus d'humilité pour qu'on le voit agir en le servant. À lui soit la gloire, à Dieu seul soit l'honneur, et qu'il nous aide à le voir chaque jour, à ne pas oublier que la puissance vient de lui. Elle ne vient pas de nous-mêmes, mais de son Esprit qui vit en tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, celui qui leur a donné cette merveilleuse vie éternelle. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.